Salut les amis, quel plaisir de vous retrouver, ça fait déjà un petit moment. C'est Poulpi Blast, bienvenue sur le 7e épisode d'Original Sound Bloggers. Comme tous les mois, nous sommes en compagnie de Victor qui a changé de pseudo pour l'occasion, qui est passé de Mr. Box 95 à Vicpor, qui va être vachement plus facile pour nous. Vicpor, comment ça se déroule?
Ça va très bien, comme d'habitude, et puis en plus on va parler des jeux que j'aime bien, donc c'est cool.
Non pas un changement de pseudo, mais un changement de micro qui va sûrement faire l'unanimité auprès de ses fans féminines. Oni qui est toujours parmi nous, comment ça va mon pote?
Eh oui, salut à tous, ça va. Donc ouais, j'ai changé de voix carrément, hein. J'en avais un peu marre de l'ancienne, donc j'en ai acheté une nouvelle, j'espère que ça passera bien.
Et un invité, comme tous les mois, vous le savez maintenant, un invité qui nous a suggéré notre sujet du jour, à savoir la musique électro dans le jeu vidéo, donc un podcast qui va envoyer du bois, hein, du très 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 lourd. Notre invité ce mois-ci, c'est Samizo Kuhei, comment ça va?
Salut, ça va bien.
Ça va, tu te plais sur OSB pour l'instant?
Oui, ça va, pour l'instant. Bon, les fauteuils sont un peu durs, mais ça va sinon.
On tâchera de changer ça, on est en pleine refonte. Donc ouais. Vous pouvez le constater, hein, vous qui écoutez peut-être Day One ce podcast, on a décidé de changer un petit peu de tranche journalière. Avant, on diffusait l'avant-dernier mercredi du mois, on a décidé de passer en début de mois, le premier mercredi du mois, donc ce podcast qui aurait dû être diffusé en juillet sera finalement le podcast du mois d'août, et encore une fois, bon été à tous. Donc on le disait, un podcast basé sur les musiques électro dans le jeu vidéo, il y en a beaucoup, le gamer il aime l'électro, généralement les geeks ils aiment ça, et on écoute là en fond un morceau du jeu Wipeout, le jeu peut-être un des plus épileptiques, d'ailleurs il y aura beaucoup des jeux épileptiques ce podcast.
Donc, ah oui.
Wipeout avec Cardinal Dancer, un jeu sorti en 95 sur PC, PlayStation et Saturn. Cette musique là en tout cas a été composée par un certain Cold Storage, de son vrai nom Tim Wright, un compositeur interne à Psygnosis, une BO à laquelle a participé également The Prodigy et Chemical Brothers, donc des noms quand même assez volumineux sur la scène électro. Et c'est notre invité, Samizo, qui nous a proposé ce morceau. Alors explique-nous pourquoi et raconte-nous un peu l'histoire de cette musique.
Alors, pourquoi ce morceau? Parce que j'ai pas tout de suite sauté le pas de la PlayStation. Et quand il se fait, bon, c'est mon frère qui l'a acheté suite à l'argent de sa communion. Et puis on nous a passé ce jeu Wipeout. Et là, disons que j'ai vraiment senti qu'on avait passé un cap, en fait. Hein. Un cap au niveau des consoles, parce que c'était ça le futur. Hein. Des jeux en 3D et puis de la musique techno. Et ce morceau, parce que bon, il y en a pas mal qui m'ont plu, mais celui-là, je sais pas, m'a plus particulièrement interpellé. Bon, par rapport à l'ambiance, ça campait vraiment une ambiance très différente de ce qu'on pouvait avoir sur 16 bits en fait.
Moi, une musique qui me rappelle assez bizarrement le film Les Trois Frères, la scène dans la boîte de nuit.
La bleue, la rouge.
Une techno à 13 années 90.
Ah bah oui, là disons que oui, ça, c'était vraiment Wipeout qui a vraiment fait sauter, on va dire, le jeu vidéo dans une autre dimension. Hein. C'est vrai que c'est très significatif de son époque en fait.
Voilà, donc pour Wipeout qui vous met déjà un peu dans l'ambiance de ce podcast qui va être, comme on l'a dit, très, très puissant. Mais on va quand même commencer en douceur, il le faut, avec, vous entendez en fond maintenant, un morceau qui s'appelle Singapore Ambient du jeu Deus Ex Human Revolution, sorti en 2011 sur toutes les plateformes possibles et imaginables ou presque. Une musique de Michael McCann. Je n'ai pas fait Deus Ex Human Revolution, donc c'est pas à moi d'en parler. Mais qui l'a fait?
Moi je l'ai fait à sa sortie. Et je trouve que la musique, comme son nom l'indique, hein, bon je sais plus quand est-ce qu'elle se joue précisément, mais c'est une musique ambiante et ça participe vraiment à l'ambiance du jeu en fait.
Ouais, donc la piste qu'on a choisie, c'est peut-être pas la plus marquante du jeu, comme le thème principal qui a été repris partout, ou certaines musiques de combat bien stylées, mais elle a quand même son charme. Donc pour faire un petit rappel, Human Revolution c'est le grand retour de la saga Deus Ex, si réputée pour le premier épisode notamment, mythique, hein, on peut le dire, je sais pas si vous l'avez fait, mais en termes de possibilités, c'était assez révolutionnaire. Possibilité de gameplay hyper ouvert, avec des tas de possibilités pour résoudre les quêtes, pour avancer dans le jeu. Donc Human Revolution, il reprend un peu ce principe, donc avec plein de moyens pour parcourir les niveaux. Donc il y a du piratage, il y a des possibilités d'avancer juste avec les dialogues qui sont un peu trop rares, mais super bien fait. l'infiltration, mais il a été quand même un peu critiqué à cause du level design qui est pas aussi subtil que son aîné, on va dire. Surtout assez couloiresque avec beaucoup de bouches d'aération, ça c'est revenu très souvent. Et une importance, ouais, comme je disais, un peu réduite des dialogues et moins de liberté, ça c'est un peu dommage. Par contre, ouais, la musique, comme la direction artistique, un petit côté Blade Runner, très sobre, ouais. Plein.
Non. Tout à fait, ouais.
Pour ce morceau, il y a une petite mélodie bien sympa, bon, c'est très cool. Et surtout, la musique se marie hyper bien avec l'univers et les décors du jeu. C'est vraiment ça l'atout principal de cette BO pour moi.
Je ouais, trouve qu'il y a une touche, enfin c'est ce qu'on voit dans beaucoup de morceaux qu'on va entendre ce soir, il y a toujours une touche, c'est électro, mais ça n'évoque pas forcément le futur, tout ça, mais ça a une dimension un peu rétro en fait.
Ça planant, moi.
Oui, c'est planant, ouais.
En parlant d'électro planante, on va passer à un jeu tout aussi récent que Deus Ex Human Revolution, plutôt avec l'accent. On va passer à un jeu sorti donc en mai 2011, un jeu de tactique tour par tour qui s'appelle Frozen Synapse. Donc un morceau qui s'appelle Triumph qu'on va écouter. Frozen Synapse disponible sur les plateformes de téléchargement. Un jeu qui se déroule, alors je suis allé sur Wikipédia parce que c'est un jeu que beaucoup de mes potes y jouent, mais moi j'y ai toujours pas joué. Qui se déroule dans une contre-utopie steampunk. Musique de Paul Taylor, plus connu sous le pseudo de Nervous Test Pilot. Frozen Synapse, qui y joue ?
J'y ai pas joué, mais j'en ai beaucoup entendu parler, pareil. C'est une production indépendante qui s'est fait pas mal remarquer dernièrement, qui est une des plus connues du milieu sur PC, on va dire. Et alors, de ce que j'en ai entendu, c'est un jeu, un tactical, hyper diabolique parce que la difficulté est au rendez-vous et qu'apparemment c'est un des sous couvert de graphisme très simpliste, apparemment c'est vraiment très 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 bien équilibré et du coup la stratégie est vraiment jouissive en fait quand on comprend le principe de jeu et en plus la BO est une tuerie cosmique d'ailleurs je pense que beaucoup de monde l'a pris dans un des derniers Humble Bundle et si vous ne l'avez pas pris vous avez fait une grave erreur.
On va se taper un petit Frozen Synapse et on revient tout de suite après. We'll be right back. ambiance très électro avec Frozen Synapse, un morceau qui s'appelle Triumph, composé par Norvus Test Pilot. Un peu moins ambiant, mais toujours très délicat, une électro qui se marie encore bien avec les fonds des jeux vidéo, puisqu'on passe à un morceau qui s'appelle Kate Chase, et qui est issu du jeu Mirror's Edge, jeu d'action-aventure développé par DICE, édité par EA, et sorti en 2008. Je crois que c'est Onink qui nous en parlera le mieux.
Oui, donc Mirror's Edge, ouais, c'est un jeu vraiment très sympa à faire, avec d'énormes sensations, de vitesse notamment, et vraiment très joli. Il est sorti en plus très tôt, hein, en 2008 tu disais, donc c'est vraiment une belle prouesse technique. Après, par contre, il faut y jouer sans y attendre grand-chose. Hein. Le scénario, autant le dire clairement, il est mauvais. L'univers est vraiment sous-exploité, c'est vraiment dommage. Après, côté gameplay, il n'y a pas grand-chose à redire, c'est très bien foutu, mais ça manque un peu de consistance. Quoi. Moi, quand il n'y a pas d'univers, j'ai vraiment du mal à accrocher à un jeu. Donc.
Il faut dire que le jeu est catalogué comme un jeu d'action-aventure, mais directement, voilà, on dit que c'est un jeu de parcours. Hein. Donc le parcours, c'est ce que font les Yamakasi. Et c'est vrai que quand on lit ça, on se dit, mais bon, alors le gameplay est certes, mais comment tu vas faire une histoire à partir d'une meuf qui va faire du parcours ?
Il n'y en a pas.
Voilà, tu peux pas, c'est super dur.
C'est plus pour le prendre comme un jeu de scoring, essayer d'aller le plus vite possible. D'ailleurs, il y a un mode scoring, je crois, quand on termine le jeu, on peut le débloquer. Donc voilà, le but, c'est de faire les meilleurs temps possibles sur les parcours, mais après, faut pas chercher grand-chose en termes de scénario.
C'est un jeu qui a été très intéressant pour ce qu'il a amené, en fait. C'est-à-dire que c'est un des premiers jeux qui a amené, on va dire, une vraie vue à la première personne. Parce que c'est un des rares jeux à la première personne de lequel tu vois tes pieds. C'est ultra immersif, je pense que c'est un des jeux à la première personne qui est le plus immersif que je connaisse, qui d'ailleurs parfois donne à nausée, tellement il est immersif, parce que voilà, vous avez les bras qui bougent dans tous les sens, les pieds qui bougent dans tous les sens, quand vous faites des sauts, ben, vous faites vraiment des sauts, et vous n'allez pas dans une direction prédéfinie, avec la vue qui reste. Et puis surtout, ce jeu est hyper impressionnant pour les speedruns. Y a les speedruns de Mirror's Edge, c'est juste des trucs de malade, c'est ultra impressionnant. Et ce jeu-là, il est génial pour ça, c'est voilà, arriver à maîtriser son gameplay pour faire le meilleur temps possible et pouvoir se la péter grave. Et il va sortir bientôt d'ailleurs, le 2 a été annoncé et est attendu par énormément de monde.
Kate Chase, hein, donc cette musique de Mirror's Edge composée par Magnus Birgersson. Et on va passer à la diffusion avec un morceau encore une fois très ambiant. Et ça se veut très ambiant pour un jeu d'infiltration développé par Ubisoft Montréal et sorti en 2005, je veux bien sûr parler de Splinter Cell Chaos Theory. Et des musiques du génialissime Amon Tobin, monsieur Electro, monsieur devant lequel je m'incline. Pour cette BO somptueuse, on va passer à un morceau qui s'appelle The Lighthouse, qui est donc le thème de la mission du phare, la toute première mission du jeu. Donc je vous propose tout de suite d'écouter ce monument, à mon sens, de la musique de jeux vidéo et de la musique électro. Donc Amon Tobin qui compose donc cette musique pour Splinter Cell Chaos Theory, The Lighthouse. passe sur fond de violon et de grosses contrebasses qui tâchent avec Splinter Cell Chaos Theory, The Lighthouse, donc l'immense Amon Tobin à la composition. Et là on va passer à un jeu qui est tout aussi immense, peut-être voire plus aux yeux de certains, un morceau un poil plus péchu que ce qu'on a entendu jusqu'à présent, qui est signé officiellement par Aperture Science Psycho Acoustic Laboratory. Vous aurez sûrement compris que je voulais parler de Portal 2 avec la première piste de la BO, Science is Fun. Évidemment, quand on parle de Portal, on en a parlé le mois dernier, et vous avez compris que c'était Victor qu'il fallait demander tout ce qu'on voulait sur Portal.
De Science is Fun, bon, je peux t'en parler vite fait, parce que c'est une musique que je trouve juste jouissive, en fait. Pour moi, c'est juste la musique électro qui te fait triper, quoi. Et non, Portal 2, c'est un des plus grands jeux auxquels j'ai joué, parce que, comme on l'avait dit la dernière fois, la narration est absolument géniale. C'est-à-dire que tu joues tout le temps, tu ne t'arrêtes jamais quand il y a de la narration, presque, à part pendant les rares cinématiques. L'humour est omniprésent, c'est très 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 bien écrit. La mécanique de jeu est juste jouissive, l'univers est génial. En plus, Portal 2 fait la suite donc de Portal 1, et en plus il vous emmène dans... Vous vous posiez des questions dans Portal 1. Enfin, c'est un monument du puzzle game. Et étant donné qu'il est toujours bradé à des prix complètement hallucinants sur Steam pendant les soldes, pour tous ceux qui ne l'ont pas fait, vous allez le faire tout de suite.
Une musique, on peut le dire, hein, qui est officiellement, qui est Aperture Science, officieusement, c'est quand même un vrai mec qui est derrière, qui s'appelle Mike Mofaski.
Mike Mofaski, il est connu pour la musique du tank dans Left 4 Dead 2.
Moi, je voulais juste revenir sur un point précis du jeu. Un des trucs que j'ai bien aimé, c'est l'évolution de l'environnement. Donc, on va essayer de pas trop spoiler, mais le jeu peut se diviser en deux ou trois grosses parties. Et moi, j'ai adoré la deuxième, on voit un peu l'envers du décor d'Aperture Science. J'ai trouvé ça super bien fait, avec les usines de tourelles, tout ça. Ça fait une grosse coupure avec les salles de test classiques. J'ai adoré ce passage.
Ça fait partie de ces jeux qui, après, font réfléchir les joueurs. Il y a un nombre de théories qui circulent pour savoir les liens relationnels entre les personnages qui n'ont pas été dit par le scénario, mais qui sont peut-être suggérés, etc. Donc du coup, il y a une espèce de profondeur de l'histoire qui se continue après que t'aies fini le jeu. Et c'est toujours appréciable.
En parlant de trucs qui sont pas dits, alors c'est totalement hors sujet, mais en fait, je suis tombé aujourd'hui sur un article de je sais plus qui, de je sais plus quoi, de je sais plus où, mais en tout cas un article qui essaie de suggérer que dans Luigi's Mansion, Nintendo voulait souligner le fait que Mario était communiste.
Merci hein, pour cette intervention.
Alors Victor avale ta salive et prend une grande respiration. Alors vous le savez, il y a un jeu dont on a beaucoup parlé, que ce soit en 2012 comme en 2013, et surtout Victor sur Gameblog en a parlé.
Il n'y a pas que moi.
Donc on va éviter les discussions à rallonge qui ont lieu au moment où on enregistre sur un certain Philippe Poisson. Donc on va diffuser la première des 26 pistes de la BO composée par Disaster Peace, de son vrai nom Rich Vreeland, du jeu Fez. Voilà, on y vient, Fez, un titre qui s'appelle Adventure, un titre super ambiant, super calme, qui rappelle un peu les jeux des années 80-90. Pour parler du jeu, même de sa BO, c'est encore Victor à qui il faut demander.
Alors Fez, encore une production indépendante, parce que vous verrez qu'on va beaucoup parler de production indépendante dans cette OSB. Fez donc est un jeu de Polystron Corporation, une équipe de deux personnes qui est composée de Phil Fish et de Bruno Bédard. Et donc Fez c'est un jeu qui est tout simplement génialissime, enfin c'est cultissime, c'est complètement énorme. Déjà graphiquement c'est absolument sublime, c'est du pixel art, mais du pixel art qui est ultra détaillé, c'est très très bien travaillé. La mécanique de jeu qui est très compliquée à expliquer, en gros vous vous déplacez tout le temps sur un plan 2D, mais le monde est en 3D et vous pouvez faire tourner le monde pour accéder à d'autres plans 2D. Ça va créer plein de mécaniques de puzzle qui vont être totalement jouissives. Ensuite le jeu est aussi valable pour sa mécanique de game design qui fait que rien n'est expliqué par les fenêtres de dialogue, et en fait c'est votre observation qui va faire que vous allez trouver les énigmes. C'est-à-dire que vous allez voir plein de signes que vous n'allez pas comprendre, des tétrominaux, des signes géométriques, et en fait tous les indices pour les résoudre sont dans le jeu, et vous allez vous rendre compte qu'il y a un système numérique à décoder, qu'il y a un alphabet à décoder, telle manipulation à faire sur la manette qui sont indiquées dans le jeu mais que vous ne comprenez rien au départ. Enfin, ça fait réfléchir, ça fait partie des jeux, quand tu les finis, quand tu trouves une énigme, tu fais « mais mon dieu, je suis trop intelligent », alors qu'en fait pas du tout. D'ailleurs, la dernière énigme du jeu n'a toujours pas été résolue par les milliers de gamers qui y jouent. La BO est fantastique, ultra ambiante, le morceau de fin est génialissime, et même si son créateur est un con égocentrique, putain, mais jouez-y quoi.
Bah moi j'ai pas joué au jeu, mais l'OST, oulala, c'est une belle tuerie. Surtout le morceau qu'on va diffuser, qui est vraiment excellent comme tout le reste de l'OST, qui se contente pas de faire du rétro, vibit, classique, comme on entend souvent. Mais là il apporte vraiment sa petite touche personnelle, ça fonctionne super bien. Et comme tu disais tout à l'heure, l'esthétique suit entre guillemets la même philosophie, c'est-à-dire que c'est pas du pixel art au rabais, il y a une vraie recherche artistique.
Fifi, chez Polytron, on a mis 5 ans à le faire ce jeu. Il a eu énormément de déboires, mais en même temps ils y ont apporté un soin et un perfectionnisme assez dingue. Enfin, il y a des petits détails dans le graphisme qui se voient pas, genre il y a de la profondeur dans les blocs, c'est la profondeur dans les blocs, tu la vois comme un moment de la rotation qui dure une demi-seconde. Voilà, au lieu de donner des sous à des développeurs qui ne méritent pas de jouer à ça, merde.
D'ailleurs, en parlant de justement du temps de développement de Fez et de la personnalité de l'homme qui l'a créé, on va pas rentrer dans les détails encore une fois, mais regardez, si ça vous intéresse, Indie Game The Movie, dans lequel, oui, voilà, justement, l'homme qui a réalisé ce reportage a fait un parallèle entre les créateurs de Fez, de Super Meat Boy et de Braid, et on se rend compte à quel point Fez, quand même, a été développé dans la souffrance. J'en dis pas plus, regardez le film qui est vraiment très très bien foutu. Et on vous laisse donc avec cette musique de Fez qui s'appelle Adventure. Original Sound Dogger, 7ème épisode, vous nous écoutez toujours, que ce soit sur Gameblog, sur Podomatic ou sur iTunes, car n'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur iTunes. Notre invité c'est toujours Samizo Kuhei, nous sommes toujours en compagnie d'Onink, de Victor et de moi-même Ponty Blast, et nous allons passer à des musiques un peu plus pêchues que ce qu'on a vu jusqu'à présent dans les thèmes électro, avec Super Meat Boy, avec le thème du château Dr. Fetus. Donc, Super Meat Boy, un jeu sorti en 2010, développé développé par les géniaux Edmund Macmillan et Tommy Refenes, et musique de Danny Baranowski, qui a également signé la bande de Binding of Isaac, Super Meat Boy, et bah il y a du monde, je pense, pour en parler par ici.
Bon, bah, Super Meat Boy, c'est un jeu qui est originellement sorti sur 360 et qui après a été porté sur PC, qui est réalisé par la team Meat, donc Edmund Macmillan, qui était très connu pour ses nombreux jeux Flash. Super Meat Boy étant la suite de Meat Boy, donc qui est un jeu Flash qui a eu énormément de succès. C'est un jeu de plateforme très hardcore, mais genre très très hardcore, qui est un peu une compilation de tout ce que la plateforme 2D sait faire de mieux, et qui est énormément joué en speedrun. Donc vous jouez Meat Boy, un garçon sans peau, ce n'est pas un bout de viande, contrairement à ce que beaucoup pensent, qui doit aller sauver sa copine Born Big Girl, qui est retenu par le docteur Fœtus, donc il est un fœtus dans un test de scaphandre avec un costard. Tout est logique. Et ce jeu est génial, donc déjà pour sa mécanique du gameplay, ensuite pour sa bande-son qui est totalement survoltée, géniale, énergique, pour le skill qu'il faut avoir pour arriver à faire des temps corrects, et aussi pour son équipe de développement qui fait énormément d'interviews, qui parle énormément du média, et des conditions de développement, ce qui est assez rare, qui, je trouve, font partie des développeurs qui sont les plus honnêtes avec leur public que je connais.
En parlant de ça, on parlait tout à l'heure de Indie Game The Movie, mais on y revient, hein, parce que Super Meat Boy, il y a toute une partie dessus qui est très 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 intéressante à regarder pour ceux qui se demandent comment on développe un jeu indé.
Et ce film est génial, et regardez-le, parce que c'est un des rares films qui traite du développement de jeux vidéo, et qui en parle de manière humaine, quoi, et qui parle des problèmes qu'il peut y avoir dans le développement de jeux vidéo. Des souffrances qu'il peut y avoir à le faire, des galères qu'on peut avoir, mais en même temps aussi de la satisfaction qu'on a quand on a des retours positifs sur ce qu'on fait, quoi.
Samizo, je crois que t'as touché un petit peu à Super Meat Boy.
Oui, le temps de me faire éclater à de très très nombreuses reprises dans les premiers stages. Enfin, pas les stages très faciles, mais au moment où ça commence à se corser, quoi. Et effectivement, bon, la bande-son, j'ai eu l'occasion de l'écouter à côté, parce que c'est le genre de bande-son qui peut tout à fait être écoutable en dehors du jeu.
Ah, complètement.
Tout à fait.
Et en plus, voilà. un truc qui est très bien dans le jeu, c'est que la musique ne s'arrête jamais, même quand tu meurs. Donc du coup,
voilà, oui, c'est un truc continu.
Voilà, ouais. C'est tout con, c'est super, parce que du coup, t'es pas frustré par la défaite, parce que la musique passe en continu et que ça enchaîne super vite. Et c'est un truc que beaucoup de jeux de plateforme hardcore oublient souvent, et c'est bien dommage.
Comme d'ailleurs, le même principe qu'un autre jeu dont on aura l'occasion de reparler, où la musique ne s'arrête jamais.
Tout à fait.
Même quand on crève.
Alors, on va passer donc à la musique de diffusion, maintenant, si vous le voulez bien, avec Super Brothers Sword and Sorcery, une musique qui s'appelle Dark Flute, un jeu d'aventure sorti en 2011 sur tablette, puis en 2012 sur PC, une musique de Jim Guthrie. Et s'il n'a pas de problème avec son micro ni avec sa Livebox, c'est peut-être Onink qui va nous en parler. Ouais, Onink, vrai coup de cœur pour Sword and Sorcery, si mes souvenirs sont bons.
Non, en fait, j'aime pas.
C'est de la merde.
Tu vas mourir.
Je vais m'expliquer. Bah, c'est le morceau qu'on va écouter qui m'a donné envie de jouer au jeu. Donc, il m'intéressait pas des masses à la base, mais quand tu me l'as fait écouter, j'ai juste adoré. Et quand j'ai démarré le jeu, j'ai été vachement surpris parce que je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que c'était une sorte de Zelda-like, alors qu'en fait c'est plus un jeu d'aventure, simili point and click, c'était vraiment étrange. Et j'avoue que je suis super convaincu par le jeu, qui est certes absolument magnifique, c'est très planant, mais j'ai pas réussi à accrocher. J'attends de voir la suite, car j'ai pas beaucoup avancé, je crois que j'ai fait les deux premières sessions, trois premières, je sais plus. Mm-hmm. Et pour l'instant, je suis un peu dubitatif, quoi. Les énigmes, je trouve qu'elles sont pas hyper bien pensées, enfin, elles sortent un peu de nulle part, faut cliquer sur des arbres un peu au hasard, enfin, vraiment assez étrange. Après, il y a quand même des idées géniales, genre le mégatome, c'est un objet qu'on peut obtenir dans le jeu, qui lit dans les pensées des gens et qui les retranscrit sur le bouquin, ça, en termes de narration, c'est plutôt sympa.
Il faut pas que tu oublies aussi en y jouant, parce que j'imagine que tu le fais sur PC, c'est que c'est un jeu iPad à la base, donc c'est que ça a été pensé pour le smartphone et les iPads, donc c'est pour ça que le gameplay
est pensé pour qu'on appuie partout.
Ensuite, moi je trouve que c'est un jeu intéressant d'une part parce qu'il est absolument splendide graphiquement, c'est superbe. C'est un jeu qui réinterprète le pixel art et qui l'utilise pour une fois de manière super intelligente. La musique est absolument splendide. C'était fait par Jim Guthrie, qui est un immense compositeur aujourd'hui. C'est celui aussi qui a fait la musique d'Indie Games The Movie. Et puis, moi aussi, ce qui m'a énormément surpris, c'est la narration. La narration donc, qui se déroule avec le Megatom, qui vit dans les pensées des gens, qui lit aussi dans les pensées de votre chien, et d'ailleurs, vous verrez que la moitié des pensées de votre chien, c'est Bark, c'est marqué Bark sous le dent. Enfin, en fait, à chaque fois que vous commencez une nouvelle session, il y a un espèce de mec en costard avec un cigare qui vous parle, et qui en fait vous fait le résumé de ce que vous avez fait précédemment, et qui vous prévoit un peu ce que vous allez faire. Vous avez un peu l'impression qu'on vous raconte une histoire dans laquelle vous êtes projeté, c'est très particulier, et en même temps, c'est assez innovant, quoi. C'est pareil, c'est un jeu qui équivaut pour son ambiance, ses graphismes, sa musique. Quelque chose que, voilà, si le jeu indépendant n'existait pas, il aurait peut-être jamais vu le jour, et ça fait du bien d'avoir des expériences un peu originales comme ça.
Voilà, donc je vous propose d'écouter cette musique qui a tant fait vibrer au Link à la découverte du jeu, Dark Flute. Donc le jeu s'appelle Super Brothers Sword and Sorcery. Écoutez toujours OSB, Original Sound Bloggers, Sword and Sorcery, Dark Flute. On espère que ce morceau vous aura fait décoller vers des autres univers. Puisque maintenant, on va partir sur le Dance Floor, avec un morceau proposé par notre invité, Sam Kuhei. Un morceau, un jeu très très peu connu finalement, qui s'appelle Wangan Midnight Maximum Tune 3. Un morceau qui s'appelle In Your Dream. Samizo, pourquoi as-tu choisi ce morceau et peux-tu me parler de ce jeu?
Alors, le jeu, je n'y connais strictement rien, sinon que c'est un jeu d'arcade, donc un jeu de voiture. Bon, vu la musique, on aurait pu s'en douter que c'était pas un RPG. Donc, c'est adapté d'un manga qui s'appelle Wangan Midnight. Donc, il s'agit du troisième épisode de la série Maximum Tune. Et ce qui a retenu mon attention, c'est parce que, bon, je farfouillais sur le net, cherchant des informations sur Yuzo Koshiro, un compositeur qu'on ne présente plus, hein. Et donc j'ai vu qu'il avait fait l'OST de ce jeu, que je ne connaissais pas. Bon, c'est vrai que c'est un style très commercial, si j'ose dire, hein. Limite remix de forain, comme dirait Speed Gamerside, mais effectivement, j'ai écouté celle du 4 et dans la même optique, hein. Les deux précédents, c'est une musique un peu plus amène, un peu plus orchestration et dance, mais là, c'est vraiment à fond dedans. En tout cas, la musique, ça donne envie de prendre le volant et de rouler à toute allure la nuit sur les autoroutes japonaises.
Du coup, on va en profiter pour rappeler, comme tu parles de Yuzo Koshiro, que c'est quand même, donc, on entend un thème vraiment très, très, très électro-techno dance floor. C'est quand même un mec qui a fait, je crois, le plus large panel de styles musicaux du jeu vidéo. Monsieur Streets of Rage, Monsieur Actraiser, Monsieur Is de mémoire.
Voilà. Bon.
Le type, on n'en parle pas à chaque podcast, mais quasiment, et a raison, parce qu'à chaque fois, on découvre des choses qui nous dépassent totalement en termes de style.
Il a même fait la musique d'un jeu de drague sur ordinateur 8-bit japonais. Hein. Ça s'appelle Misty D'accord. Blue.
On a fait une petite place au dance floor. On va maintenant parler de Child of Eden, un jeu sorti en 2011, édité par Ubisoft et développé par Q Entertainment, le successeur spirituel du jeu Rails, un rail shooter basé sur l'enrichissement de la musique à chaque cible touchée. Donc Child of Eden, on va passer un morceau qui s'appelle Matrix. Victor, peut-être ?
Moi, Child of Eden, j'ai découvert ça grâce à un certain Poulpe ici. Et j'ai pleuré du sang au bout de un niveau. Je suis devenu épileptique. Alors qu'on s'entende bien, je trouve que la direction artistique est fabuleuse. Hein. Par contre, tellement de lumière partout que ça flingue les yeux, mais à une vitesse. La bande-son, c'est très J-pop, donc moi j'ai beaucoup de mal. Par contre, la mécanique de jeu qui est basée autour de la synesthésie est très très sympa. Et là, je vais te laisser en parler, Samizo.
Effectivement, c'est Shadow of Eden continue, on va dire, dans la même lignée que Rez. Le précédent, je sais pas s'il en a fait d'autres entre-temps, de... alors c'est Tetsuya Mizoguchi. Donc la synesthésie, c'est un phénomène, en fait, à la base, un phénomène neurologique où deux ou plusieurs sens sont associés. Alors là, il s'agit de la vision et du son, parce qu'en fait, le son évolue en fonction de ce qu'on fait à l'écran. Donc moi, à titre personnel, c'est un jeu que j'ai eu quand dématérialisé. C'est un jeu que j'avais acheté lors d'une promo sur le PSN. Bon, c'est un peu pareil que Victor, donc j'ai joué assez peu de temps parce que c'est effectivement très, c'est très visuel, si j'ose dire. Hein. C'est de la musique visuelle, hein, comme dirait l'autre. C'est très particulier. C'est au moins essayé.
Donc on peut peut-être dire que la musique, alors c'est officiellement un groupe virtuel interne au jeu qui l'aurait composé, à savoir les Genki Rockets. Mais en réalité, ouais. La personne s'appelle Yuki Uchiki. Peut-être Onink rajouter quelque chose sur Shadow of Eden.
Moi, j'ai bien aimé ce que tu disais tout à l'heure, Samizo, c'est-à-dire le fait d'intégrer la musique directement au gameplay. C'est-à-dire qu'en gros, pour scorer un max de points, il faut faire des combos en tirant. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça tirer. On sait pas trop qui on est dans le jeu. Mais en gros, pour faire des combos, il faut tirer en rythme avec la musique. C'est assez chaud au début, ça demande pas mal de temps d'adaptation, mais ça se fait au fil des parties. Ouais, ce qui est bien, c'est que le bruit des tirs se marie super bien avec la musique. Donc au final, c'est sympa à jouer et à écouter en même temps.
D'ailleurs, ce qui est triste, c'est que Tetsuya Mizuguchi n'est plus dans le milieu. Il a quitté l'année dernière, je crois, pour se consacrer à d'autres choses parce que voilà, il destinait à avoir fait son temps là-dessus et qu'il allait se consacrer à son groupe de musique électro, justement.
On a dit qu'on arrêtait de parler des gens qui quittaient le monde du jeu vidéo. Hein.
Je viens de voir ça sur le site vgmdb.net, donc la base de données sur la musique de jeux vidéo. Tetsuya Mizuguchi, donc c'est également producteur de Space Channel 5 et Genki Rockets, c'est égal le clip. Evening Star est également apparu dans No More Heroes. Si je me rappelle bien, quand on est dans la chambre de motel, quand on regarde la télé, on allume la télé, on peut voir le clip d'Evening Star. Donc ce morceau de ce groupe virtuel, la Genki Rockets, qui apparaît donc également dans Child of Eden.
Child of Eden, donc un morceau qui s'appelle Matrix et qui vous fera peut-être autant bouger votre croupion que nous. A tout à l'heure. We'll be right back. toujours sur le Dance Floor de General Soundvloggers. Et vous écoutez donc toujours notre podcast sur l'électro avec une musique désormais. Mais alors, ce jeu est magnifique et cette musique est magnifique. C'est un monument à mon sens. Vous écoutez en fond le thème Potential for Anything du jeu VVVVVV, le jeu à la prononciation la plus chiante au monde. Un jeu développé par Terry Cavanagh, sorti en janvier 2010 sur PC, donc un jeu indépendant. Une musique composée par Soul Eye, de son vrai nom Magnus Palsson, et la BO se nomme à juste titre PPPPPP, tout simplement, puisque tous les noms de titres commencent par P. Quelqu'un a joué à ce jeu, à VVVVVV ?
Pas encore, honte à moi.
Non.
Pour vous donner un petit ordre d'idée de ce que c'est VVVVVV, on y incarne Viridian, capitaine d'un vaisseau spatial perdu dans une dimension inconnue, nommée justement VVVVVV. Et donc le personnage ne peut pas sauter, par contre en appuyant sur la touche V, on peut changer la gravité et le faire marcher sur le plafond. Et évidemment un jeu légèrement moins hardcore que Super Meat Boy, mais quand même pour finir à 100%, ça nécessite pas mal de skills, notamment sur certains objets à choper qui sont vraiment... on peut mourir un nombre des centaines de fois, c'est monstrueux. Et donc ce morceau, Potential for Anything, il n'y a pas vraiment d'ordre dans la visite des salles, en fait, des donjons entre guillemets, mais celui-là c'est souvent celui qu'on fait en deuxième, puisqu'il est juste en bas du vaisseau spatial. Et donc un morceau absolument splendide de chiptune, remixé avec de grosses basses derrière et surtout des harmonies vraiment fantastiques où on se croirait vraiment dans un espèce d'espace totalement distordu. C'est à la fois amusant, c'est à la fois planant, c'est une musique très très bien construite et toute la BO est de cet acabit là. C'est monstrueux, c'est juste monstrueux.
J'adore la mécanique du jeu, puis le fait que tu n'as pas de saut mais t'as juste inversé la gravité. Et du coup c'est super déstabilisant au départ, je l'ai pas fini mais j'ai joué 10 minutes quoi. Et c'est super perturbant de ne pas pouvoir sauter dans un jeu de plateforme quoi.
Bon, si vous avez envie de nous défier sur OSB, moi mon record personnel c'est d'avoir fini le jeu en 28 minutes. Donc 28 minutes pour finir et je crois 130 morts. Si vous avez fait mieux, postez-nous vos résultats, parce que ça me donnera des défis à relever. On va continuer avec ce grand développeur qui est Terry Cavanagh, avec un jeu qu'il a quand même... Là c'est quand même immense, il a développé ce jeu pendant une game jam, donc en 48 heures. Un jeu qui est sorti le 5 septembre 2012. Sortir ça en 48 heures, c'est quand même assez immense. Un jeu totalement épileptique au possible.
Diabolique, c'est horrible.
Diabolique. Super Hexagone. Super Hexagone développé donc par ce même Terry Cavanagh qui a fait VVVVV. Et une BO juste parfaite et totalement aussi droguée. Composée par une jeune demoiselle anglaise qu'on n'avait pas trop vu venir, qui s'appelle Chipzel. Une artiste donc de chiptune, bah, c'est puissant, ça donne envie de bouger, ça augmente vraiment le rythme du jeu qui est déjà totalement dingue. Et je crois que Victor, tu as tenu 10 secondes sur ce jeu.
Ah ouais, ce jeu m'a fait rage quitte, ce n'est comme pas possible quoi. Alors je l'ai acheté, bon j'ai pas de regret parce que je l'ai acheté en promo Steam à 50 centimes. C'est juste diabolique quoi. En gros, c'est la mécanique du jeu, c'est vous avez une flèche. Vous avez des hexagones troués qui vous arrivent dessus et faut les éviter. Et faut tenir le plus longtemps possible. Alors quand vous arrivez sur le menu, vous avez la sélection de niveaux, et là où dans un jeu normal ce serait marqué facile, normal, difficile, très difficile, là c'est directement marqué difficile, encore plus de plus difficile, et ben c'est pas une blague parce que c'est vraiment très très difficile. Et à force d'entendre You Die tout le temps, au bout d'un moment j'en ai eu marre, et je suis allé écouter la BO tout seul dans mon coin, à part parce que c'est juste une tuerie atomique. Et je suis un loser, je sais, mais j'ai autre chose à faire dans ma vie que de passer mon temps à mourir sur le 10 premières secondes d'un jeu pour éviter les hexagones, merde.
On va écouter ce morceau qui s'appelle Focus, qui est extrait de la BO de Super Hexagone, un morceau totalement démentiel composé par, donc on le rappelle, une petite artiste anglaise qui s'appelle Chipzel. Focus sur OSB. We'll be right back. l'avais dit, hein, que ce serait terrible ce morceau de Super Hexagone, Focus. Vous êtes de retour avec nous sur OSB, ce morceau, enfin moi je me le passe en boucle depuis une semaine, il est juste totalement démentiel. Et Onink, qui avec ses petits problèmes de connexion nous lâche de temps en temps, avait quelque chose à dire sur Super Hexagone.
Ouais, ouais, non mais c'était juste pour rebondir sur ce que disait Victor, qui lui avait rage quit au bout de quelques secondes, ce pauvre noob. Bah, contrairement à lui, moi j'ai trouvé le jeu ultra addictif, c'est-à-dire que les parties durent effectivement quelques secondes à chaque fois. Moi en tout cas, je voulais à chaque fois recommencer directement pour tenir le plus longtemps possible, et le truc c'est qu'à chaque fois tu te foires sur une connerie, tu sens que tu peux faire un meilleur score. Même si, bon, moi aussi, je suis une grosse merde, j'ai même pas réussi à tenir une minute lors du premier niveau, je trouve ça quand même super fun.
T'as payé les vacances de ton opticien, du coup?
Oui, oui, non, moi, je trouve ça joli, hein. C'est de l'art abstrait, quoi.
Enfin, moi, je trouve ça beaucoup plus joli qu'un jeu qui va en faire des tonnes. Là, au moins, c'est simple, mais bon, t'as pas besoin de plus, quoi.
Oui, bien sûr. Ouais. Moi, je dirais que c'est quand même un jeu qui est à 0,85 Super Mario Kart, hein, en termes d'échelle. Bon, alors, je m'explique. Il y a quelques temps de ça, je crois que c'était en novembre, sur mon blog, j'avais posté un article sur Super Mario Kart, où je disais, à propos de la Rainbow Road, que c'était le maître étalon du jeu qui pique les yeux.
Ah.
Et du coup, je trouve que Super Hexagone est quand même pas loin du maître étalon. Moi, je donne 0,85 Rainbow Road.
Attends, je vais trouver des trucs, moi, tu vas voir.
Bon, assez parlé d'épilepsie, on va donc continuer avec un jeu développé par Ubisoft, Far Cry 3 Blood Dragon. On écoute en fond d'ailleurs actuellement le thème principal du jeu. Tamizo, c'est toi qui nous a proposé ce morceau.
Tout à fait. Bon, ce qui est très particulier, c'est que, si je me rappelle bien, Blood Dragon, donc, qui est un DLC standalone par rapport à Far Cry 3, donc ça reprend le même moteur et on va dire le principe général, ça avait été annoncé le 1er avril. Donc ça avait tout de la grosse blague, hein, parce que c'était complètement différent du jeu principal. Puis il s'avérait que le jeu est vraiment sorti, et bon, c'est un hommage aux années 80. Ça se voit d'un point de vue visuel, avec les néons, d'un point de vue des thématiques, avec un héros, une histoire complètement badine de Universal Soldier, son héros qui s'appelle Rex Cole, et sa musique, tout synthé rétro dehors, que l'on doit à Power Glove, donc à un artiste australien, dans une mouvance qui est un peu à la mode.
Mais récemment, Kavinsky a fait son beurre dessus, hein, donc on est totalement dedans. Hein.
Ah ouais, bah Kavinsky, entre autres, effectivement, aussi dans le jeu vidéo, d'ailleurs, c'est une tendance, le rétro-futuriste, j'ai envie de dire. Parce que là, on a un affrontant avec ses dinosaures, ses néons. D'ailleurs, dans le jeu, on bute les Daft Punk, hein. C'est eux les sbires, en fait, on arrête pas de tuer les Daft Punk. Non, c'est vrai que les casques, ils nous insultent en plus.
Il y a un jeu sorti le 1er mai 2013, hein. Et pour continuer dans cette veine très rétro qui revient bien à la mode, notre prochaine diffusion, ce sera Double Dragon Néon. Un morceau qui s'appelle Lab 1. Donc le jeu est sorti en 2012 sur le PSN et sur le Xbox Live. Des musiques de Jake Kaufman qui a bossé sur quasiment que des jeux qui sont rétro et qui viennent à la mode, hein, genre Contra 4, Double Dragon, Teenage Mutant Ninja Turtles, DuckTales, Micro Machine. Voilà, que des adaptations récentes de jeux rétro. Mais pareil, Samizo, c'est toi qui t'y colle, c'est notre invité, tu nous proposes des thèmes.
Voilà, alors cette OST, donc, est, à noter que cette OST est disponible uniquement en digital, donc via le Bandcamp de Jack Kaufman, et elle est gratuite. Donc elle est composée de 45 morceaux. Ben là, pareil, on est en plein dans l'hommage aux années 80. Il y a les morceaux qui jouent à chaque fois qu'on joue un enchaînement. Hein. Les mixtapes, en fait, ce sont des pastiches de morceaux des années 80. Et en fait, le thème que j'ai choisi, donc, c'est Lab 1. Il s'agit de la reprise du thème de la mission 1 de Double Dragon 2. À noter d'ailleurs qu'il y a beaucoup de morceaux de cette OST donc, qui sont des reprises. Puis il y a également des morceaux, en fait, pareil, ça reprend du Hard FM, de la pop, en fait, City Streets 2. Mango Tango No Jungle. Je sais pas, vous l'avez peut-être écouté déjà cette OST ?
Non, j'ai découvert.
J'ai pas du tout joué au jeu, mais l'OST est très très écoutable en dehors du jeu.
Tu parlais du compositeur de Double Dragon Néon tout à l'heure, Poulpi, mais t'as oublié de citer quand même ses meilleures œuvres. Donc il avait signé auparavant des BO tels que Wings Club Mission Enchantix, Qui veut gagner des millions, David Beckham Soccer ou encore l'excellent MLM's Minis Madness. Il a vraiment de la bouteille, hein, le gars.
C'est vrai que j'ai oublié.
Jack Kaufman ?
Ouais, ouais.
Ouais, si, si.
Double Dragon Néon, le morceau s'appelle Lab 1, et on revient tout à l'heure pour conclure cet OSB, 7ème épisode, avec toujours Vicport, Onink, s'il arrive à se connecter, et Samizo Kuhei. suite et fin de ce 7ème épisode d'OSB, vous venez d'écouter Double Dragon Néon, donc un morceau de Jake Kaufman, Monsieur David Beckham Soccer, qui... le morceau s'appelait Lab 1, et on va passer à un jeu qui aurait, selon les avis, je dis bien, qui serait le jeu indépendant de l'année 2012, qui aurait coiffé Fez au poteau tellement il est bien, un jeu qui s'appelle Hotline Miami. Un jeu totalement démentiel celui-là aussi, une BO à laquelle beaucoup d'artistes ont contribué, notamment Perturbator qui nous signe le morceau qu'on écoute en fond actuellement, qui s'appelle Vengeance.
Alors Hotline Miami, donc, c'est un jeu qui est sorti en 2012, qui a été créé par Denaton Games, qui est une team de deux personnes, et donc qui a été décrit par Eurogamer comme, je cite, un top-down fuck them up. Donc en gros c'est pas compliqué, c'est une vue du dessus, tu arrives dans des pièces, tu dois buter tout le monde, c'est super dur, et voilà, et c'est jouissif, et la musique défonce, et c'est un jeu de psychopathe, parce qu'il y a du sang partout, parce que tu tues des mecs à la chaîne, t'en as rien à foutre. Et puis aussi, moi il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est un jeu qui utilise une narration par level design. C'est-à-dire qu'il y a des fenêtres, des textes qui vont raconter l'histoire, mais il y a aussi énormément de choses à observer pour arriver à comprendre l'histoire et arriver à anticiper ce qui va se passer. C'est un des meilleurs jeux voilà, indépendants de l'histoire, et c'est même un des meilleurs jeux de 2012, largement au-dessus de plein d'autres, parce que c'est juste le plaisir de jouer avant tout, quoi. Et tu te fais une soirée là-dessus, et tu meurs, et tu meurs, et tu meurs, mais t'enchaînes tout le temps, quoi.
Au niveau musical, on en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure avec les précédents morceaux, hein. Un thème qui fait vraiment très très électro des années 80, les Kavinsky, ouais. Les Jack David Beckham Kaufman, les Power Glove. Ouais.
Hotline Miami, à la manière de beaucoup d'OST qu'on a mis ici, même des morceaux qu'on a sélectionnés pour le podcast, je pense à Super Meat Boy et VVVVV, on a beaucoup galéré à choisir quelle piste on allait mettre dedans, parce que toutes les pistes sont bien, quoi, dans ces BO-là.
Ça provient la qualité, effectivement, des BO qu'on vous a proposé aujourd'hui et qu'on vous invite à écouter plus longuement, un peu plus en entier, dans le détail de celles que vous aurez aimées ou moins aimées. Et ainsi s'achève ce 7ème numéro d'Original Soundbloggers consacré donc au thème électro dans le jeu vidéo. Encore une fois, c'est un thème tellement large, on en a choisi que 17 morceaux, mais il y en a beaucoup plus et on espère que nos choix vous ont plu. Merci à notre invité Samizo Kuhei d'être venu ce soir pour parler avec nous.
C'est moi qui vous remercie.
Merci encore évidemment à Onink, à Victor d'être là tous les mois. Et merci à vous, chers auditeurs, puisque vous nous écoutez toujours, certains, depuis cette émission. Donc merci beaucoup encore à vous. N'hésitez pas à partager donc sur iTunes, sur Podomatic et sur notre gameblog, donc le gameblog de Poulpy Blast. Et n'hésitez pas à voir le gameblog de tous nos confrères, donc Onink, Victor, Samizo Kuhei. Et nous allons terminer avec un Wipeout HD, un morceau qui s'appelle Machine Gun. Un titre de Noisia, mais il y a également The Crystal Method et Kraftwerk qui ont participé à cette BO. Donc beaucoup d'artistes électro quand même assez connus, Noisia est un petit peu moins connu. Un jeu sorti en 2008 sur PS3. Pour terminer, nous allons proposer à Onink de nous parler un peu de ce jeu totalement dément, au même titre que le premier Wipeout dont nous avons parlé tout à l'heure.
Ouais bah Wipeout HD, best jeu de course ever, j'ai envie de dire.
Hein. Tu peux répéter juste le Wipeout?
Parfaitement prononcé, non?
Oui, c'est très bien, vas-y, vas-y.
Wipeout HD, ouais, c'est un de mes jeux de course préférés, en même temps c'est pas hyper dur en ce qui me concerne, que je suis pas du tout jeu de caisse en général, mais celui-là c'est vraiment quelque chose. Hein. En plus je suis tombé dessus sans rien y attendre, hein, pendant le fameux hack du PSN l'année dernière, si vous vous rappelez, on avait le droit à un jeu gratos, donc en gros rapia que je suis, je me suis précipité sur ce Wipeout. Donc pour résumer, c'est un jeu de course avec d'énormes sensations de vitesse, ça va encore plus vite qu'un F-Zero comparé avec le concurrent direct. Donc au début on se prend des tas de murs, mais la marge de progression est énorme, et quand tu arrives à bien contrôler ton vaisseau à vitesse maximum, c'est super grisant. C'est ça que j'ai adoré dans le jeu. Et quand ça va ultra vite, t'as carrément des sortes d'états de transe, t'es plus conscient de ce que tu fais, mais tu contrôles ton vaisseau sans réfléchir. Un peu comme dans le mode hard de Super Hexagon où tes doigts bougent tout seuls quand t'arrives à tenir longtemps. Donc voilà, le design déchire, notamment celui des vaisseaux qui puent la classe, l'OST déchire. À la base, les musiques étaient composées par des musiciens internes, comme pour le premier morceau qu'on a diffusé, c'était Cardinal Dancer, je crois. Et puis au fil des épisodes, c'est des artistes plus connus qui ont apporté leur contribution, et c'est vraiment bien.
Bien, mais on va donc se quitter là-dessus. Machine Gun, donc extrait de la BO de Wipeout HD. On peut peut-être déjà lancer un appel pour le mois prochain, début du mois de septembre, avec un podcast qui, on vous l'annonce tout de suite, sera consacré aux musiques d'eau, musique aquatique. Donc si vous êtes intéressé par le thème, si vous avez des morceaux à nous proposer, vous pouvez nous envoyer un MP pour éventuellement devenir notre invité pour le 8e épisode d'Original Soundbloggers. En attendant, passez un très bon mois d'août et on vous dit à très bientôt. Ciao ciao.
Ciao.
Salut.
À plus.